Nous avons lu tout à l'heure le chapitre 38 de Job, et j'aimerais ce matin m'arrêter sur le verset 2 seulement, où l'Éternel dit à Job, Job 38, verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Voilà une drôle de question, hein. Dieu qui demande à Job pourquoi, en quoi il est celui qui est en train d'obscurcir les desseins, les projets que Dieu a. Par tout un tas de discours, de raisonnements, de contrariétés infondées. Alors, déjà dans ce verset, moi je vois quelque chose de formidable. C'est que si Job est en train d'obscurcir les desseins de Dieu, c'est que Dieu a des desseins lumineux. Parce qu'on ne peut pas obscurcir quelque chose qui est déjà sombre. On ne peut qu'obscurcir ce qui est lumineux. Et en effet, Dieu a des projets, a des desseins lumineux, y compris pour Job, son serviteur. Et moi, ça me touche particulièrement et ça m'encourage parce que Dieu me dit ce matin à travers ce verset, j'ai des projets lumineux pour toi, pour ta vie. Et tous les versets qui suivent sont là pour attester que les projets de Dieu sont lumineux. Et Dieu va le montrer à travers le soin qu'il a mis dans la création. Et il prend des tas d'exemples de la nature pour dire « Regarde, regarde comme j'ai bien créé la nature. Regarde comme j'ai bien pesé les choses. » Est-ce que tu es capable d'en faire autant? Est-ce que tu es capable d'imaginer, de projeter, d'avoir des inventions aussi géniales et lumineuses? Eh bien, si j'ai pu le faire pour cette terre, je peux le faire pour ta vie. Il y a encore des tas de choses dans la nature que aujourd'hui la science ne comprend pas. On cherche, on réfléchit, on découvre, mais il y a encore des tas de grands mystères dans la nature. Des choses qu'on ne sait pas encore comment trop elles fonctionnent. On ne comprend pas tout. Mais ce dont on est sûr, c'est que c'est complexe, extraordinairement complexe, magnifique, lumineux. Et Dieu dit à Job, tu vois, tout ce que je suis capable de mettre en œuvre, de créer, d'imaginer sur du long terme, eh bien dans ta vie aussi, j'ai des projets, j'ai des plans. Ce n'est pas des plans de malheur, ce n'est pas des plans nocifs, mais j'ai un dessein, j'ai un but, et ce but, pour ta vie, il est plein de lumière. Frères et sœurs, ce matin, rendons-nous compte que Dieu a des projets, des buts pour notre vie, qui sont lumineux. Il a un plan pour moi. Cela étant dit, Job s'exprime au chapitre 30 et au verset 26. Et il dit, Job 30, verset 26, il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venus. Il dit, oui, Dieu, tu dis que tu as des projets lumineux pour moi, ben, je l'attendais, ta lumière. Et le malheur est arrivé. Alors, revenons au personnage de Job. Job, c'était quelqu'un d'intègre, droit devant Dieu, droit dans ses bottes, qui obéissait à Dieu, qui avait une vie vraiment propre, vraiment pieuse. Et puis c'était quelqu'un qui jusque-là était plutôt dans la réussite. une belle famille, un beau patrimoine, une bonne santé. Enfin, il était plutôt privilégié, prospère, protégé, on va même dire gâté. Bon, toute sa vie, il avait craint que ça n'arrête. Mais jusqu'à présent, tout marchait bien pour lui. Il servait Dieu, il honorait Dieu. Et puis en retour, il avait l'impression que bon, ben, Dieu le protégeait, Dieu le faisait prospérer. Et voilà que tout à coup, bam! Ses troupeaux se font attaquer, décimer. Il n'a plus de troupeaux. Ses enfants étaient dans une maison en train de faire la fête ensemble, petite fête familiale de frères et sœurs. Une tempête arrive, la maison s'écroule, tous ses enfants meurent. Il perd son argent, il perd sa famille, il lui reste sa femme et la santé. Et puis quelques temps plus tard, comme si ce n'était pas assez, un ulcère malin, depuis la racine des pieds jusqu'à la sommet de la tête, va le prendre et il va perdre également sa santé. Il va maigrir, on va voir ses os, enfin c'est terrible. Et puis il ne comprend pas. Il dit, mais pourtant moi, pourtant je croyais que Dieu avait des projets lumineux pour ma vie. Là, je ne comprends pas. Il dit, j'attendais le bonheur et voilà le malheur. La lumière et voilà les ténèbres. Alors, Dieu va lui montrer qu'il a réellement des desseins lumineux pour lui. Et toute l'ingéniosité de Dieu dans la création montre que Dieu est fiable. Qui sait ce qu'il fait? Mais ces projets lumineux, ce n'est pas synonyme d'une vie privilégiée, protégée et gâtée à vue humaine. Lorsqu'on dit que Dieu a des projets lumineux pour notre vie, ça ne veut pas dire qu'on ne tombera jamais gravement malade. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre sa fortune. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre un deuil. Et là, tout d'un coup, on est pris de stupeur. On ne comprend plus. Et Job, il est dans cette stupeur, dans cette incompréhension, si bien que il dit, mais alors ça sert à quoi tout ça, quoi? Et au chapitre 35, et au verset 3, voilà à quel type de raisonnement il en arrive. Ce raisonnement est le suivant, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? Job, il est là, il dit, bon, mais alors, moi j'avais une vie droite, je faisais vraiment tout pour plaire à Dieu. Et puis finalement, il m'arrive des malheurs dans la vie. Ben, alors ça sert à quoi de pas pécher? J'y gagne quoi, moi? Parce que, nous l'avons vu au chapitre 28, Dieu avait dit, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et la semaine dernière, on a réfléchi, est-ce que ma vie est stupide ou est-ce que ma vie est intelligente? Il dit, mais avoir une vie intelligente, ça me sert à quoi? Une vie intelligente, si c'est s'éloigner du mal, ben, ça me sert à quoi de pas pécher? Puisque finalement, il m'arrive pareil qu'aux autres. Je peux avoir un enfant qui meurt. Je peux perdre mon travail. Je peux tomber malade. Et des tas d'autres choses qui peuvent nous arriver. Et ça, c'est un danger pour chacun d'entre nous. Que un ami de Job va opportunément lui exprimer au chapitre 36. C'est Élihu C'est le seul des quatre amis de Job qui visera juste et qui dira des paroles que Dieu approuvera. Et au verset 21, il lui dit « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Il dit « Fais attention Job, pour l'instant tu t'es toujours tenu éloigné du péché, mais maintenant que tu connais la souffrance, parce que tu ne l'avais pas connue jusque-là, maintenant que tu traverses un moment de souffrance, cette souffrance-là, elle te pousse, elle te dispose à te livrer au mal, plutôt qu'à te continuer de t'éloigner du péché. » Effectivement, son langage à Job, c'est « Que me sert-il ? À quoi me revient-il de ne pas pécher ?» Alors, une première réponse à cela, nous, on peut se poser la question. Finalement, j'y gagne quoi ? De faire attention lorsque Dieu dit « ça c'est un péché, alors je l'enlève de ma vie, je prends garde, je change de conduite. » Ça sert à quoi ? J'y gagne quoi ? Proverbe 9, verset 12 nous donne la réponse. Proverbe 9, 12 nous dit la chose suivante. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Ça veut dire quoi ce verset ? Ça veut dire que si tu vis avec sagesse, cette sagesse, c'est à toi qu'elle est profitable. Si tu es sage pour ton propre bien, pour ton propre bénéfice. Et si tu es moqueur, c'est-à-dire moqueur des lois de Dieu, moqueur de la sagesse, on dit, ouais, de toute façon, je m'en fiche, je vis comme je veux. Je m'en moque. C'est dans ce sens-là ici. Ouais, je m'en moque. Il dit, tu emporteras seul la peine. On récolte ce qu'on sème. Et Dieu dit, si tu sèmes la sagesse, tu récolteras de la sagesse un fruit bénéfique pour ta vie. Si tu es sage pour toi. Vous savez, c'est un petit peu comme si un enfant vient et vous dit, je vois vraiment pas qu'est-ce que j'y gagne à ne pas mettre ma main dans la poêle brûlante, alors que maman veut même pas m'augmenter mon argent de poche. Il dit, j'y gagne quoi, moi? À obéir. Tu gagnes à pas te brûler, mon coco, c'est tout. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Et nous, on peut raisonner en disant, j'y gagne quoi, moi, à pas pécher, oui, j'y gagne quoi, à pas me droguer, hein? Tu gagnes à pas voir les neurones détruits. Hein? Et sur la question du péché, qu'est-ce qu'on y gagne à ne pas pécher? On y gagne à ne pas être détruit. Parce que lorsqu'on fait mal, on se fait mal. Lorsqu'on agit mal, lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait mal, on se fait mal. Et la Bible nous dit, si tu es sage pour toi. Tu dis, qu'est-ce que j'y gagne, moi, à pas pécher? Mais tu gagnes quantité de choses, parce que le péché, c'est ce qui te détruit toi. Alors, en te tenant éloigné du mal, le premier bénéficiaire, c'est toi. Et nous, parfois, on a un petit peu ce raisonnement de dire, je vais suivre Dieu, là, il me dit que ça, c'est un péché, je vais l'écouter. Puis après, on dit, je comprends pas pourquoi, là, Dieu a quand même permis que je perde 100 euros. Pourtant, je m'étais tenu éloigné du péché, mais tu te tiens éloigné du péché pour ton propre bien. Voilà ce que tu gagnes. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur de la sagesse, tu en porteras seul la peine. Job avait déjà eu des raisonnements similaires et ses amis lui avaient déjà répondu sur ce sujet. On le voit au chapitre 22, Job 22. En Job 22, versets 2 et 3, c'est un de ses amis qui pour une fois dit quelque chose de pas trop mal. Il lui dit, un homme peut-il être utile à Dieu ? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il ? Vous savez, que je pêche ou que je fasse ce qui est juste, Dieu n'y gagne rien et il n'y perd rien. Au chapitre 35, nous avons la contrepartie. Job 35, versets 6 et 8 à 8. Il dit, si tu pêches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Voilà, ça veut dire que finalement, quand on fait ce qui est mal, Dieu n'y perd rien. Et quand on fait ce qui est bien, Dieu n'y gagne rien. Les seules personnes que ça touche, c'est nous et nos semblables autour de nous. Parce que quand je pêche, j'abîme aussi les autres, je m'abîme moi et j'abîme les autres. Et quand je fais ce qui est bien, je me construis moi, c'est à mon bénéfice et au bénéfice de ceux qui m'entourent. Mais Dieu, lui, il s'intéresse à comment je vis. Mais que je pêche ou que je fasse ce qui est juste, Dieu n'y gagne ou n'y perd rien. C'est nous qui gagnons ou qui perdons. Quand je pêche, je suis le grand perdant. Et quand je suis intègre, je suis le grand gagnant, le premier grand gagnant. Alors, à cette réponse, parce que la souffrance dispose Job à se tourner vers le mal. Il dit finalement, ça sert à quoi ? J'obéis à Dieu, je suis laissé commandement. J'y gagne quoi, moi, dans l'affaire ? Il m'arrive que des tuiles. Peut-être on peut se poser cette question. À quoi me sert-il de ne pas pécher ? Eh bien, écoute, si tu es sage, tu es sage pour toi-même. Continue, continue à t'éloigner du mal. C'est au vrai bénéfice de ta vie. Alors la deuxième question que Job pose, nous la voyons au chapitre 34. D'abord, il a dit, bon, ça sert à quoi de ne pas pécher, j'y gagne quoi ? Et la deuxième question, Job 34, verset 7. Voilà le quatrième ami de Job qui dresse un constat. Et ce constat, il est assez surprenant. Il dit, y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies ? Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Alors là, on est surpris, parce que Job, au départ, c'est quelqu'un d'intègre, qui sert Dieu, etc. Seulement, voilà qu'il perd sa fortune, sa famille et sa santé. Et il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Et son ami, là, il lui dit, mais là, quand tu dis ça, tu marches main dans la main en société de ceux qui font le mal. Pourquoi ? Parce que les impies disent quoi ? Vous leur dites, ben, tu sais, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Oh là là, moi j'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Je vis ma vie très bien sans Dieu. Il est inutile de mettre mon plaisir en Dieu. Il est inutile de venir à Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui vous a dit, moi Dieu, ça me servirait à quoi ? Ça me servirait à quoi Dieu ? Et beaucoup de gens sont là, vivent leur vie, et quand on leur parle de Dieu, ils savent pas dans quelle case de leur vie le rajouter en disant, bah écoute, moi toutes les cases de ma vie elles sont remplies, à quoi il peut me servir ton Dieu, hein? Et là Job est en train de dire la même chose. Il dit, en fait ça me sert à quoi Dieu? Mais le raisonnement est pas la même chose. Souvent, ceux qui disent, moi, j'ai pas besoin de Dieu dans la vie, c'est parce que leur vie va bien, semble-t-il, sans Dieu. Là maintenant, Job, c'est le contraire. C'est parce que sa vie va mal. Il dit finalement, ça me sert à quoi Dieu? Je croyais que ça serait ma protection, ça allait me garder de tous les dangers, de tous les drames de la vie. Je croyais que j'allais avoir une vie gâtée, privilégiée, protégée. Ben non, il m'est arrivé tous les malheurs du monde. Alors finalement, ça sert à quoi de mettre Dieu dans ma vie? Ça m'a servi à quoi? Et son ami lui dit, ben, ce raisonnement-là, il est coupable. C'est là où est le problème. Parce que tu te dis, ça me rapporte quoi? Parce que tu as un rapport à Dieu qui est un rapport marchand. Dans ta logique, tu vas servir Dieu, honorer Dieu, te tenir éloigné du mal. Mais quelque part, au fond de ton esprit, il y a une petite condition. Et cette petite condition, c'est à condition que Dieu me donne ce que j'ai envie d'avoir. À condition que Dieu me donne la vie que j'ai envie d'avoir, me protège de ceci, me garde de cela. Sinon, ça sert à quoi? Job était là. Et Dieu avait un dessein lumineux pour lui. C'était de le faire passer à une autre étape. Il était en relation avec Dieu, il se tenait éloigné du mal. Mais cette situation de souffrance a fait apparaître quelque chose qui était dans inconscient pour lui. Il s'en était jamais vraiment rendu compte. Mais ça a été l'occasion de le faire apparaître. C'est que finalement, il se tenait éloigné du mal. Il était en relation avec Dieu dans une espèce de contrat marchand où Dieu lui garantissait la réussite, la protection, la santé, une belle famille. Et tant qu'il avait tout ça, lui ne s'est jamais posé la question, il servait Dieu, ça marchait bien. Puis tout d'un coup, quand tout s'écroule, il dit, mais ça me sert à quoi tout ça? Alors je me suis tenu éloigné du péché, ça me rapporte quoi? Moi j'ai fait des prières au Seigneur et tout, et c'est quoi le résultat? C'est que maintenant j'ai le cancer. Tu lui dis, mais tu sais, à travers ce cancer, à travers tout ça, j'ai un projet lumineux pour ton âme. Qu'est-ce que tu es en train d'obscurcir tous mes projets là? Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par un discours sans intelligence? Et Job, face à cette question, face à l'affirmation de Dieu qui lui montre au travers de la nature, je ne fais pas n'importe quoi. Regarde comme j'ai réglé le soleil, regarde comme j'ai réglé les planètes. Est-ce que tu trouves que la terre est chaotique ou est-ce que tu trouves qu'elle est harmonieuse? Est-ce que tu trouves que mon œuvre dans son ensemble, elle a du sens et elle est belle ou est-ce que tu trouves que c'est le n'importe quoi, la ruine? Et Job, il regarde la nature, il dit non, je suis bien obligé d'admettre que ce que tu fais, Seigneur, c'est beau. Ça a du sens. Je ne comprends pas tout, je ne comprends rien dans comment les lois de l'univers, ça fonctionne, mais je constate qu'effectivement, ça a du sens. Alors, Job au verset, au chapitre, prenez quelques chapitres plus loin, au chapitre 42, c'est le dernier chapitre, c'est la conclusion. Il va reprendre la question que Dieu lui a posée. Il répond à Dieu. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Et il reprend cette question qui lui a été posée au verset 3. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job est en train de s'aligner avec Dieu en disant oui, je comprends pas ce que tu fais, je sais pas pourquoi ni comment parce que ça me dépasse. Mais oui, il s'agit bien d'un dessein lumineux. Il s'agit d'un projet merveilleux, d'un plan que tu as pour ma vie. Et le verset 5 nous montre son progrès. Il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Quel est le dessein lumineux de Dieu pour nous? Eh bien, ce verset nous montre que c'est la résonance harmonieuse d'un cœur intime de Dieu. Jusqu'à présent, Job était dans une relation avec Dieu où, tant que Dieu lui donne tout ce qu'humainement il a envie d'avoir, il prend. Puis tout d'un coup, quand ça ne tombe plus, il remet Dieu en question. Est-ce qu'il aime Dieu? Ou est-ce qu'il aime ce que Dieu lui donne? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que j'aime ce que Dieu me donne, tant qu'il me donne ce qui me convient? Ou est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il est? Ici en France, nous accueillons depuis des décennies toute une population immigrée. Et par exemple, on peut se poser la question, est-ce que ces gens-là viennent parce qu'ils aiment la France et les Français? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils viennent parce qu'ils aiment ce que la France leur donne? Et est-ce qu'ils apprennent à aimer la France et les Français? Ou est-ce que, sans apprendre à aimer la France et les Français, ils prennent ce que la France donne? Vous voyez? C'est très d'actualité tout ça. Mais c'est une question qui nous renvoie à notre rapport à nous avec Dieu. Est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il est? Ou est-ce que j'aime ce qu'il me donne tant qu'il me le donne? Par contre, si on coupe les vivres, est-ce que j'aime ça? Je lisais un article cette semaine comme quoi le Canada veut tripler sa population et cherche une population notamment francophone. Or, on se dit, tiens, pourquoi j'irais pas émigrer au Canada? Est-ce que j'aime le Canada et les Canadiens? J'en sais rien, je les connais pas. Mais éventuellement, je suis prêt à aimer ce qu'ils ont à me donner. Bon, moi, j'irai pas, il fait trop froid. Faut vouloir, hein. Vous voyez, là on est déjà dans les calculs en se disant, bon peut-être que ça, le jeu en vaut la chandelle, peut-être que, ouh mais il y a la neige. Bon, c'est pas par amour pour le Canada. On est simplement en train de calculer, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Et jusqu'à présent, Job, il disait, servir Dieu et me tenir éloigné du mal, ça me réussit plutôt bien. Et quand tout d'un coup la maladie, le deuil et la faillite surviennent, là, il dit, alors là Dieu c'est n'importe quoi, c'est n'importe qui, enfin n'importe quoi, de toute façon ça sert à rien du tout, j'aurais mieux fait, enfin ça me sert à quoi de m'être tenu éloigné du mal, enfin. Eh bien, le progrès qu'il avait besoin de faire, c'était... Son oreille avait entendu parler de Dieu, il dit, mais maintenant mon œil t'a vu. Je me suis rapproché de qui tu es, je me suis rapproché de toi. Ça nous fait penser au mariage. Le mariage. Je me mets en couple avec quelqu'un parce que j'aime qui est cette personne ou parce que j'aime ce qu'elle m'apporte et ce qu'elle me donne? Difficile d'y répondre. Hein. J'aime l'amour qu'elle me procure, j'aime tout ça. Hein, c'est... Mais quand elle me donne plus tout ça, est-ce que je continue d'aimer cette personne? C'est délicat. Hein. Et souvent, les divorces, c'est parce qu'on ne reçoit plus ce qu'on attend, ce qu'on espère recevoir de l'autre, et comme on ne le reçoit plus, on se dit ça vaut plus la peine. C'est plus à mon avantage là. Alors nous, on est face à des êtres humains pécheurs. Là, nous sommes face à un Dieu saint. Et la chose, c'est est-ce que mon cœur va aimer Dieu pour Dieu ou pour ce qu'il me donne? Eh bien, le Seigneur, il sait d'où on part. Il sait très bien qu'on part pire que Job. On part de plus bas que Job. Mais c'est pas grave. Il sait très bien comment on est. Mais il veut nous amener plus loin. Il a un projet lumineux pour notre vie. Et ce projet lumineux, en particulier, c'est d'œuvrer dans notre cœur pour que notre cœur le rencontre de manière intime, pour qu'on le contemple, pour que ce que Dieu est puisse envahir notre âme, notre esprit, pour que notre œil puisse le voir, le contempler. Oui, ça peut passer par des moments de souffrance. Mais le Seigneur a un dessein lumineux. Alors, terminons par cette question. Quand est-ce que je vais cesser d'aller à l'encontre du projet lumineux de Dieu ? Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Il dit, écoute, Job, jusqu'à présent, ça fait plusieurs semaines, moi j'ai des desseins lumineux pour ta vie. C'est vrai qu'il passe par la souffrance, mais moi je veux que ton œil puisse me voir. Je veux que ta vie puisse résonner de l'harmonie de ce que je suis. Je veux te faire passer à une dimension supérieure. Et pour l'instant, tu vas à l'encontre de mon projet pour toi. Pour l'instant, tu es là et tu végètes, et tu t'opposes. Tu obscurcis mon plan pour toi, mon plan de lumière. Arrête. C'est vrai, je ne t'explique pas tout le pourquoi du comment. En Job 33, c'est bien dit à Job, Job 33, verset 13. C'est toujours son ami Élihu, le quatrième. Au verset 12, déjà, il lui dit, Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? En fait, tout est là. Job ne comprend pas le dessein lumineux de Dieu. Il ne voit pas en quoi ça va le conduire à la lumière. Il dit, Dieu, il ne m'explique pas. Il ne m'explique rien. Il ne rend pas compte de ses actes. Alors moi, je vais m'opposer. Tant que je veux comprendre, tant que je ne comprends pas, je m'oppose. Et Seigneur, il veut nous dire ce matin, fais-moi confiance. Tu comprends pas? Je te rends pas compte? Ouais, c'est vrai, c'est mon problème. Je n'ai pas forcément à te rendre compte de pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela, quels sont mes plans. Tu comprends tout dans l'univers, dans sa structure? Non. Pourtant, tu y vis et tu y es bien. Eh bien, tu comprends pas tout de comment je façonne ta vie, comment je permets certaines choses, mais avance avec moi et cesse d'obscurcir ce plan lumineux que j'ai en vue pour toi. Nous avons, de plus que Job, une bonne raison de faire confiance à Dieu. Job, lui, Dieu l'a placé face à la création. Nous, Dieu nous place face à Jésus-Christ. En Romains, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous. en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons une chance par rapport à Job. C'est de savoir que je peux faire confiance à Dieu, et la meilleure preuve, c'est que Dieu lui-même s'est fait homme et qu'il est mort pour moi. Il a accepté de passer par la souffrance, par la mort. Il a donné sa vie pour moi. Quelle meilleure preuve ? Dieu s'est fait homme, il a donné sa vie pour moi. Alors quand il me dit « Arrête d'obscurcir mes desseins », je me souviens que il est digne de confiance, digne d'être cru, parce qu'il a donné sa vie. Il s'est fait homme, il est venu, il a souffert pour moi. Il a prouvé son amour. Job, lui, n'avait pas cet élément-là, parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et pourtant, il a décidé de dire « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent. Je ne comprends pas trop ce que tu fais, mais je te fais confiance, Seigneur, parce que tu es Dieu, ce que tu fais, c'est merveilleux. Ça sera bien pesé, bien réglé, ça a du sens. Tu es en train de façonner un joyau. Et non pas en train de concocter un petit plan machiavélique et néfaste pour ma vie. Parce que c'était ça, là, la question. Est-ce que Dieu me veut du mal ? Est-ce qu'il est en train de retourner sa veste et de devenir machiavélique ? Non. Dieu ne change pas. Il est fidèle. Alors, voulons-nous permettre à Dieu de bousculer notre vie ? Parce que la vie de Job, elle a été bousculée. Hein. Elle a été chamboulée. Et ce chamboulement, c'était mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Oui, Seigneur, tu avais un projet lumineux pour moi, et je cesse de m'opposer à ton projet. Je cesse d'aller à l'encontre de cela. Et moi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que souvent, je vais à l'encontre du projet lumineux de Dieu pour moi. Mais Dieu s'obstine à le mener à terme. Malgré nos réticences, malgré comment on résiste, eh bien Dieu, lui, il s'obstine à mener à terme son projet pour notre vie. Il ne va pas se laisser arrêter par nos réticences. Il va persévérer. Si bien que Paul pouvait écrire « Je sais, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne va pas laisser tomber avec nous. On dit « Bah, il est trop coriace celui-là, je laisse tomber, tant pis. » Il veut les ténèbres, eh bien il les aura. Dieu continue d'appeler, continue d'interpeller pour qu'on puisse se mettre au même diapason, pour qu'on puisse cesser d'obscurcir le dessein qu'il mène dans notre vie. Alors, est-ce qu'on est prêt à dire au Seigneur, « Seigneur, je veux passer à une étape de plus dans ma vie. » J'ai ma petite vie chrétienne ici. Comme Job, il avait sa petite vie pépère, sa femme, ses enfants, ses richesses, ses serviteurs, la santé, tout à lui. Une petite vie pépère, tranquille. Et peut-être nous, c'est comme ça, je ne sais pas. Notre petite vie, notre petit rythme, notre petit truc. Le Seigneur, il dit, « Attends, tu ne crois pas qu'on arrive au bout du chemin quand même ?» J'ai des projets bien plus glorieux et bien plus lumineux pour ton cœur. On va pas en rester là, moi je veux t'amener là, puis là. Le Nouveau Testament nous dit, il veut nous, par le Saint-Esprit, nous transformer de gloire en la même image. Et le mot transformer, c'est le mot métamorphoser. Le Seigneur veut nous faire passer d'une métamorphose à l'autre, de gloire en gloire, c'est-à-dire de quelque chose de déjà glorieux à quelque chose de plus glorieux, quelque chose de plus glorieux encore. Seigneur, il a des desseins pour notre âme. Il veut les mener à terme. Il veut pas qu'on en reste là où on en est. Est-ce qu'on veut se laisser bousculer spirituellement? Ou est-ce qu'on veut, comme Job, en rester là? On dit, non, ouais, c'est bon là. Je suis bien là où je suis là. Moi, j'ai pas d'ambition spirituelle. C'est dommage de pas avoir d'ambition spirituelle. Si cela s'entend de ressembler à Jésus-Christ. Quel dommage. Lorsqu'on veut en rester en disant, bon, ben, on a commencé la petite chirurgie esthétique pour ressembler à Jésus, mais on ne va pas pousser non plus trop loin. Hein. Là, ça me suffit. On se contentera du nez et puis terminer. Hein? Le Seigneur dit, non, attends. J'ai un vrai projet. Prions. Seigneur, la vie de Job a été bouleversée, bousculée, dans tous les sens. Et ça a fait mal aussi. Seigneur, tu sais ce que nous vivons, là où nous en sommes, les bouleversements aussi, les souffrances. Et nous voulons déjà ce matin te louer, te remercier, parce que tu es un Dieu qui a des projets, des desseins, des plans lumineux pour notre âme. Et que tu t'obstines à les mener à terme dans notre vie. Merci pour cela. Merci parce que tu nous connais, tu t'intéresses à chacun d'entre nous, nous sommes précieux pour toi. Et tu veux toujours plus pour nous. Tu veux meilleur. C'est vrai, ce meilleur, Seigneur, n'a pas toujours la couleur première de ce que nous pensons être meilleur. Mais tu veux nous amener à dépasser cela et à saisir le trésor qu'il y a, Seigneur, d'une vie qui est vécue en pleine résonance de ton cœur. Parce que nous sommes intimes et que nous devenons de plus en plus intimes de toi. Seigneur, ce matin, tu nous poses la question, est-ce que tu veux cesser d'obscurcir mes desseins pour toi? Tu as des projets pour nous faire grandir. Tu as des projets pour nous sanctifier. Tu as des projets pour nous équiper, pour que nous soyons des serviteurs, des servantes plus efficaces. Tu as des tas de projets lumineux. Et peut-être, Seigneur, nous, pour l'instant, nous bloquons et nous te disons non, ne bouscule pas ma vie. Laisse-la comme elle est. Seigneur, ce matin, nous voulons t'apporter nos cœurs pour pouvoir te dire, Seigneur, j'accepte que tu bouscules ma vie et que tu mènes à terme le projet que tu as pour moi. Peut-être, c'est vrai, cela, Seigneur, passe par une souffrance, par un moment difficile. Mais j'accepte, Seigneur, d'aller avec toi dans ce projet. Seigneur, sonde nos cœurs et que nous puissions vraiment lâcher prise et passer à l'étape supérieure à laquelle tu veux nous amener. Peut-être nous réfléchissons à ce que ça coûte nous voyons comme un sacrifice ceci ou cela. Seigneur, que nous puissions te faire confiance, tout simplement, te faire confiance. Tu es digne de confiance parce que tu es venu, tu t'es fait homme et tu es mort pour nous. Merci pour cette preuve de confiance que tu nous as donnée et sur laquelle nous pouvons nous appuyer avec certitude. Seigneur, que nous puissions être plein d'espoir, plein d'espérance, en sachant que dans notre vie n'est pas sans issue, n'est pas sans but, mais que tu as plusieurs choses en réserve pour nous. Merci pour cela, au nom de Jésus. Amen.